Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce lundi 18 mai 2015, à la une ce soir.
Au Burundi, reprise des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Entre-temps, le pouvoir opère un léger remaniement ministériel.
Nouvelle attaque contre l'armée au Mali. Trois militaires ont été tués à Bambara Maoudé, à 100 km au sud de Tombouctou. Attaque attribuée aux rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad.
Enquête sur la mort de Thomas Sankara au Burkina Faso. 27 ans après les faits, la veuve du président assassiné était entendue pour la première fois aujourd'hui par un juge d'instruction.
En Irak, Ramadi tombe, plaçant les djihadistes presque aux portes de Bagdad. Le gouvernement prépare la contre-offensive.
Aux États-Unis, le président Barack Obama veut limiter la militarisation de la police.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé ce lundi à un remaniement de son gouvernement et remplacé trois ministres, dont ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. D'autre part, des tensions entre militaires ont agité Bujumbura ce lundi après de nouvelles manifestations contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Le ministre de la Défense, Poncien Gachibouyenge, est remplacé par Emmanuel Naonvoki, un civil, a annoncé à l'AFP le porte-parole de la présidence, Gervais Abaero. C'est la première fois depuis une cinquantaine d'années qu'un civil occupe ce poste clé au Burundi. Monsieur Naonvoki est un ancien magistrat qui a dirigé la cour anticorruption et il est apolitique selon la présidence. Au ministère des Relations extérieures, Alain Menyamitwe, jusqu'ici ambassadeur du Burundi auprès de l'Union africaine, succède à Laurent Kavakure. Et la ministre du Commerce, Virginie Chiza, est remplacée par Irina Inanore. Pendant ce temps, de petits groupes de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui dans plusieurs quartiers périphériques de Bujumbura, fief de la contestation contre un troisième mandat présidentiel depuis fin avril. À cette occasion, l'on a évité de justesse des affrontements entre deux unités de l'armée, l'une attaquant des manifestants et l'autre voulant s'interposer. Pour la première fois depuis le début du mouvement, c'est l'armée et non la police qui a été déployée pour assurer l'ordre.
Sachez aussi que les pays de la région des Grands Lacs, donc les membres de la CIRGL, réunis en sommet extraordinaire aujourd'hui en Angola, ont condamné la tentative de coup d'État contre le président burundais Pierre Nkurunziza et défendu sa légitimité. Nous saluons la défense de l'ordre constitutionnel par les forces loyales, a déclaré le président José Eduardo dos Santos. D'après l'AFP, il a aussi appelé à la tenue d'élections législatives et présidentielles au Burundi, malgré la crise actuelle.
Une nouvelle attaque contre l'armée dans le nord-ouest du Mali. Trois militaires ont été tués tôt ce matin à Bambara Maoudé, à 100 km au sud de Tombouctou. L'attaque attribuée aux rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad a été menée alors que les militaires dormaient, souligne l'AFP, citant des sources militaires. Cette attaque intervient trois jours après la signature d'un accord de paix par le gouvernement et la médiation internationale, mais sans le CMA. Il faut dire que la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a dénoncé une grave violation du cessez-le-feu qui met en danger la paix.
Enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. 27 ans après les faits, sa veuve était entendue pour la première fois aujourd'hui par un juge d'instruction. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source judiciaire. La justice burkinabé a démarré fin mars une enquête sur la mort de Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir.
Tension politique en République démocratique du Congo. Une plateforme de l'opposition rejette le dialogue proposé par le président Joseph Kabila, y voyant une manœuvre pour permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat. Un dialogue qui, d'après l'opposition, risquerait de l'entraîner dans un chemin de transition et de déboucher vers un glissement du calendrier électoral en violation de la Constitution.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les combats dans le nord du Soudan du Sud et les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu paraphé par le gouvernement et les rebelles en 2014. Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué, le Conseil de sécurité a déclaré qu'une offensive du gouvernement dans l'état de Unity a provoqué des violences à grande échelle qui ont déplacé 100 000 personnes et provoqué l'interruption de la livraison de l'aide aux civils dans la région. Le Conseil impute par ailleurs aux rebelles une attaque contre la ville de Malakal dans l'état du Haut-Nil. Le groupe des pays d'Afrique de l'Est qui tente de régler le conflit entre le gouvernement du président Salva Kiir et les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar a déclaré qu'il était profondément frustré par la violence à Malakal. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a exhorté les deux parties à respecter leurs traités et à trouver une issue pacifique à la crise. Le gouvernement sud-soudanais dément que ses forces aient violé l'accord de cessez-le-feu et plaide la légitime défense. Les États-Unis ont fait valoir qu'il n'existe pas de solution militaire à ce conflit.
En Tunisie, le gouvernement se retrouve face à une situation des plus délicates. Libérer 172 Tunisiens détenus en Libye par un groupe de la coalition de milices islamistes Fajr Libya. Leur arrestation vient en représailles à l'arrestation à Tunis de l'un des chefs de l'organisation. Les détails avec Salwa Jafari.
172 ressortissants et le chiffre pourrait être revu à la hausse selon les autorités tunisiennes. Tunis se dit cependant optimiste quant au dénouement de cet épisode. Le consul tunisien à Tripoli a indiqué hier soir que son bureau avait reçu des plaintes de ressortissants tunisiens l'informant des arrestations et de la détention d'un nombre important de leurs compatriotes par une phalange alliée aux forces de Fajr Libya et aux forces de Misrata qui s'appelle Katibat al-Madfaya. Les victimes seraient retenues à Salah ad-Din, dans la région de Tripoli. Les Tunisiens auraient été pris par la milice en représailles à l'arrestation jeudi d'un de leurs chefs, Walid El-Klibi. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par la lutte entre différents groupes armés, dont les milices djihadistes. Sur le plan politique, deux gouvernements se disputent le contrôle du pays, l'un reconnu par la communauté internationale dans l'est du pays, l'autre à Tripoli, sous contrôle de Fajr Libya.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des miliciens chiites se rendent sur le front près de Ramadi à l'appel du premier ministre irakien Haider al-Abadi. La capitale de la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, a été prise hier par les combattants du groupe État islamique. Les unités de mobilisation populaire, qui avaient aidé l'armée irakienne et des tribus alliées à reprendre Tikrit le mois dernier, pourraient renforcer les forces gouvernementales dans le cadre d'une contre-offensive pour la reconquête de Ramadi. Maintenant, une distance de seulement 125 km sépare les djihadistes de Bagdad, mais un porte-parole du Pentagone prédit que Ramadi sera reprise avec l'aide de la coalition internationale.
En Amérique du Sud, glissement de terrain dans le nord-ouest de la Colombie. Selon les autorités, au moins 33 personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues. La catastrophe survenue vers 8h GMT a également fait une trentaine de blessés.
Le secrétaire d'État américain souhaite maintenir la pression sur la Corée du Nord. Lors d'une conférence de presse à Séoul, après ses entretiens avec la présidente Park Geun-hye et le ministre des Affaires étrangères Yoon Byung-se, John Kerry a rappelé la possibilité de porter le cas de Pyongyang par devant la Cour pénale internationale.
And it is also why, for the first time, the UN Security Council last year took up.
La question a été abordée pour la première fois l'an dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU et, dit John Kerry, si les violations des droits humains continuent en Corée du Nord, il est probable que la CPI soit saisie.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama veut limiter la militarisation de la police. Une annonce destinée à apaiser les tensions après plusieurs émeutes violentes et rétablir un climat de confiance entre les forces de l'ordre et les communautés locales. Claire Morin-Gibourg.
En déplacement à Camden, dans le New Jersey, Barack Obama devrait annoncer cette initiative dans un discours en milieu d'après-midi. Une annonce surprise qui vise à interdire l'utilisation par la police de véhicules blindés à chenilles, de lance-grenades, d'uniformes de camouflage et de certaines armes et munitions de gros calibre. L'encadrement des armes autorisées sera également plus rigoureux à présent. La police américaine bénéficiait jusqu'ici d'un programme de recyclage des équipements du Pentagone, une surmilitarisation des forces de police qui avait particulièrement choqué l'été dernier à Ferguson après la mort de Michael Brown, quand des fusils d'assaut avaient été pointés contre des manifestants et que des policiers patrouillaient à bord de véhicules blindés. Beaucoup avaient alors dénoncé une nouvelle provocation dans les quartiers sensibles nord-américains. La Maison-Blanche espère ainsi restaurer la confiance entre la population des quartiers sensibles et les forces de l'ordre.
Un membre influent du Sénat américain se lance dans la course à la Maison-Blanche. Lindsey Graham, républicain de la Caroline du Sud, a fait part de son intention lors de l'entretien avec la chaîne de télévision CBS. L'annonce officielle sera faite le 1er juin en Caroline du Sud. Il y a déjà 5 autres candidats, rappelons-le, à l'investiture du Parti républicain et 2 dans le camp démocrate, Hillary Clinton et Bernie Sanders. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
La Mauritanie s'inquiète d'une nappe de fioul apparue depuis 3 jours sur ses côtes, sur une distance de 200 km qui a déjà provoqué un échouage de quelques espèces marines, dont des poissons. Le gouvernement a mis en œuvre le plan Polmar de lutte contre la pollution marine par les huiles d'origine pétrolière et l'évolution de la situation déterminera le recours possible à l'aide internationale, a expliqué le ministre des Pêches. En République démocratique du Congo, l'ambassade des États-Unis appelle tous les investisseurs à suivre l'exemple chinois de la Sicoumine. Après la visite des ambassadeurs et représentants du FMI, de la Banque mondiale et du PNUD, ce week-end à Kolwezi, dans la province de Katanga, le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Kinshasa se dit très impressionné par ce qu'il y a vu. On écoute Eric Madison.
On ne craint pas les Chinois. Au Congo, nous sommes des partenaires, nous avons les mêmes intérêts. Nous nous intéressons tous les deux au progrès, au développement économique, pacifique de la RDC. Donc je crois que c'est bien un intérêt commun.
Eric Madison, chargé d'affaires de l'ambassade américaine en RDC, au micro de nos confrères de Top Congo FM. Et le manque d'électricité est le principal frein à l'activité économique en Afrique du Sud, a estimé aujourd'hui le ministre sud-africain des Finances, qui prévoit pour 2015 un modeste rebond de croissance de 2%. Eskom, la compagnie publique d'électricité en Afrique du Sud, est fragilisée depuis des années par un sous-investissement, une maintenance insuffisante, un parc vieillissant, un manque de trésorerie et un fort endettement, ainsi que de graves problèmes de management.
C'était la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Plein feu sur les stades, les sports avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
On commence en football. Résultat des 8e de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine disputée ce week-end.
Oui, Al Ahly d'Égypte a battu le club africain de Tunis 2-1, écrasante victoire de l'Espérance de Tunis qui recevait les Ghanéens de Hearts of Oaks 4-0. Le stade malien a lui battu le l'AS Vita Club du Congo 2-0. Déception bien sûr de Florent Ibenge, entraîneur de l'AS Vita Club.
Déjà avant tout de la déception, à chaque fois qu'on perd c'est de la déception. Ensuite on est tombé sur une équipe qui en voulait plus que nous au début de chaque mi-temps. On a commis vraiment une erreur de débutant. J'ai eu beau dire un petit peu à mes joueurs d'être vigilants sur la pelouse, ils n'ont pas mis les bons crampons. Donc dès la 4e minute on a glissé et à ce niveau-là ça ne pardonne pas. On encaisse un but après à cause du mauvais cramponnage, donc ça c'est impardonnable.
Voilà, affaire de crampons, des propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Siaka Koulibaly. Le Sanga Balende de la RDC a lui battu le Zamalek, une grosse surprise, 1-0. Résultat complet et analyse dans Sporama Chérubin.
Toujours en football, cette fois-ci chez les filles de moins de 20 ans. Éliminatoire Coupe du Monde Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016.
Eh bien, la sélection nationale féminine des moins de 20 ans de la RDC a battu les Gabonaises au stade Tata Raphaël de Kinshasa par 5-0, s'il vous plaît. Les deux équipes se retrouveront le samedi 23 mai à Libreville pour le match retour. Autant dire que la victoire est presque assurée. Hein,
oui, déjà assurée, si presque, on peut dire. Presque, Bagassi. À vos pédales, fin du tour 2015 du Togo.
Eh bien, c'est les Burkinabés. Le Burkinabé, donc, Seydou Bamogo, qui lui a remporté l'édition 2015 du Tour cycliste du Togo. Le Burkinabé a dominé l'épreuve depuis sa prise du maillot jaune lors de la 3e étape. Et lors de cette dernière étape, un critérium de 48 km disputé dimanche dans les rues de Lomé, Bamogo s'est de nouveau imposé. D'où ce commentaire, Chérubin, de Émile Olympio, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football.
De cyclisme.
De cyclisme.
Alors, on ne l'aura pas, Bagassi. Je crois que je vais vous remercier. On vous retrouvera dans Sporama plus tard.
C'est un sabotage du cyclisme burkinabé par les Haïtiens.
Merci, merci, Bagassi. Chérubin Dorsil et Morgane Guériec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Au Burundi, les radios et télévisions privées ont payé le plus lourd tribut dans la crise qui secoue ce pays depuis le 26 avril. La radio publique africaine, chaîne partenaire de VOAfrique, a été incendiée. La radio Bonesha et la télévision Renaissance ont été sévèrement endommagées par des explosions de grenades. Pour un état des lieux, Idriss Fall a joint Bujumbura Patrick Dukimana, directeur de la radio Bonesha et président de l'association burundaise des radios.
On n'est pas opérationnel, il y a au moins 4 médias indépendants, dont 3 radios et une télé qui ne sont pas en train de travailler parce qu'ils ont été cibles d'une attaque armée. À part la télévision Renaissance qui, j'apprends qu'elle peut quand même travailler, mais sinon, les 3 radios qui sont Bonesha, RPA et Isanganiro, ce n'est pas pour demain parce que la RPA a été incendiée, Bonesha et Isanganiro, le matériel est hors usage, au moins à 80%.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire alors?
Bon, nous avons entendu que le chargé de la communication à la présidence qui a dit que maintenant nous pouvons émettre, mais on se pose la question comment est-ce qu'on va émettre alors que 80% de notre matériel est hors usage. C'est ça la question principale. D'après ce que les techniciens nous ont dit, donc il faudra remplacer presque tout le matériel. C'était des investissements qu'on avait faits. Ce sont des appareils qui coûtent énormément cher. Et, on n'a rien comme recette. Même avant cette attaque, les radios ne travaillaient pas. Il y a la RPA qui était complètement fermée. Bonesha et Isanganiro qui étaient à moitié fermés parce qu'on n'émettait qu'à Bujumbura. Et là, il n'y avait pas d'annonceur qui amenait des publicités. Donc, c'est vraiment une équation à solution inconnue.
Mais est-ce qu'on a même pu mettre la main, ne serait-ce que sur les auteurs?
Non, parce que la RPA, elle a été incendiée parce qu'il y avait coup d'échange entre les militaires et policiers loyalistes, et quelques militaires aussi qui gardaient la radio. La RPA, et il y a les militaires putschistes qui sont allés avec la population pour la réouvrir. Bonesha, il y a des policiers qui ont intimé l'ordre à tout le monde de sortir. Il n'y avait même pas moyen de les regarder dans les yeux. Mais c'était des policiers, c'était des agents de l'État qui ont commis cet acte criminel et barbare.
Maintenant, on parle d'aller vers des élections et pour le moment, il n'y a que la radio nationale alors qui couvre l'ensemble du territoire et qui émet en bonne et due forme.
C'est ça le problème, c'est ce que moi j'avais dit même avant, parce que quand la RPA a été fermée, quand Bonesha et Sanganiro n'émettaient pas à l'intérieur du pays, quand le studio de l'association des radios était fermé, moi je me posais la question, est-ce que ces élections seront crédibles? Donc c'est la même chose aujourd'hui, on décide d'aller aux élections, bon, j'apprends qu'on est en train de voir comment glisser le calendrier électoral, mais techniquement, on ne peut pas commencer à diffuser avant 2 ou 3 mois. Donc, il y a risque évident que les élections aient lieu et qu'elles soient couvertes uniquement par la radio et la télévision de l'État.
Patrick Dukinama, directeur de la radio Bonesha et président de l'association burundaise des radios.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Dans le nord du Mali, des échanges de tirs ont été signalés hier à Ménaka, malgré la signature vendredi d'un accord de paix. Les Gatia, groupe d'autodéfense proche de Bamako, défendent cette ville que voudrait reprendre la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, donc les rebelles Touareg. Sur ce qui s'est passé hier dans cette ville, Idriss Fall a joint à Bamako Bajan Agamatou, un notable de Ménaka.
Hier, la population de Ménaka n'a pas entendu des tirs comme ça a été diffusé. En tout cas, ils n'ont pas entendu des tirs autour de Ménaka. D'autres personnes peuvent entendre des tirs, mais un peu plus loin. Notre connaissance, il n'y a pas eu de combat hier à Ménaka.
La CMA voulait reprendre cette ville que les Gatia avaient reprise depuis le 27 avril, non?
Oui, la CMA a voulu reprendre la ville, mais la plateforme le lui a empêché. La CMA a été repoussée, je n'ai pas arrivé en ville.
Mais comment comprenez-vous que les combats se poursuivent alors qu'on parle de signature d'accord de paix depuis le 15 mai à Bamako?
Ce que moi je sais, c'est que la population de Ménaka, tout ce qu'elle a vécu depuis le 17 janvier 2012, lui a été imposé par des hommes armés. Maintenant, les raisons qui font que des gens se battent autour de Menaka, en tout cas, moi, je ne les souhaite pas et ce n'est pas normal. Si la CMA considère qu'elle s'occupe des populations, on ne peut pas à la fois dire qu'on a les soucis du bien-être d'une population qu'on soumet à des tirs des armes et de la façon la plus gratuite.
Est-ce que vous pensez que la paix sera possible dans le nord du Mali alors?
Les Touaregs, en réalité, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Je connais parmi eux des hommes, ceux qui sont à la tête de la CMA, comme à la tête peut-être de la plateforme. Il y a des hommes qui ont le souci de préserver la stabilité et la paix pour les populations. Et c'est pour cela que moi, je ne désespère pas. Moi, je crois qu'il va y avoir la paix. C'est vrai, je reconnais tout ce que la communauté internationale a fait. Mais moi, je crois qu'il faut appeler tout le monde à arrêter ces effusions de sang, tout ce qu'on fait vivre aux pauvres populations du nord du Mali en général.
Parlant des Touaregs, ouais. Apparemment, il y a une certaine division, dissension entre les Ifoghas et les Imgad.
Je vous donne l'exemple de Menaka. Nous, on a toujours clamé notre appartenance à l'unité nationale du Mali. Comme nous l'avions fait en 1960, contribuer à l'unité nationale du Mali et à son indépendance. Et même avant que déclenche la rébellion, nous avons clamé très haut que nous sommes des Maliens. Nous restons attachés à l'unité nationale du Mali et à l'intégrité territoriale du Mali. Mais malheureusement, à cause de notre éloignement des zones qui sont véritablement protégées par les forces de sécurité, on a toujours été les premiers à être occupés par la force.
Badjan Ag Amatou, un notable de Menaka, dans l'est du Mali.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et victime des violences xénophobes, le mois dernier, les migrants d'Afrique du Sud font face maintenant à des contrôles de police musclés, souvent suivis de détentions dans le cadre d'une opération contre la criminalité. Ainsi, plus de 400 Mozambicains ont été récemment expulsés vers le pays pour défaut de papier. Pour un éclairage, Timothée Donongmaï, adjoint à Johannesburg, Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine d'Afrique du Sud.
Ce qui nous surprend, c'est que lors de cette opération, les policiers rentrent à 4h du matin, 3h du matin, rentrent dans des immeubles où se trouvent les migrants. On fait sortir tout le monde, les gens qui dormaient, on les fait sortir dans le froid. Les enfants, les femmes, on les arrête et on dit « bon, on va vous envoyer à la police et c'est seulement là-bas qu'on peut procéder à une vérification de vos pièces ». Et les gens peuvent être détenus dans ces polices-là 5 ou 6 jours, voire une semaine, avant de vérifier qu'ils sont légaux dans le pays. Et c'est seulement là qu'on peut les laisser. Par contre, d'autres sont pris et amenés dans le centre de rapatriement qu'on appelle l'Indela. Et cette opération qui est censée lutter contre la criminalité, on ne nous dit plus. Combien de criminels ils ont arrêté lors de l'opération, mais plutôt on nous donne le nombre des migrants illégaux qu'ils ont arrêtés. Hier à Pretoria, il y a eu près de 3800 migrants qui ont été arrêtés et c'est comme ça depuis les jours passés.
Quel est l'impact de cette opération sur la communauté migrante en Afrique du Sud?
Non, mais la communauté est encore une fois déboussolée après les violences qu'il y a eu où on pensait que le gouvernement sortait pour calmer les choses, c'est maintenant le gouvernement qui ramasse les gens. Et même quand tu as tes papiers, tu n'es pas sûr de ne pas être arrêté.
Un taux de chômage de 24% en Afrique du Sud n'aide pas vraiment la situation.
C'est le gouvernement qui doit donner l'emploi à ses citoyens. Ce n'est pas aux migrants de créer les emplois. Ce n'est pas en chassant forcément les étrangers qu'il y aura des emplois. Les étrangers ne travaillent pas dans l'administration sud-africaine. Les étrangers ne se retrouvent pas dans les compagnies sud-africaines. Les étrangers créent leurs propres emplois en Afrique du Sud. Et le gouvernement, au lieu de rassurer les migrants, la communauté migrante, et rassurer les populations et expliquer ce qui se passe, le gouvernement soutient le sud-africain moyen dans la rue qui ne comprend pas qu'est-ce que la migration, en disant que tiens, nous fermons les frontières, nous allons tout faire pour rapatrier les migrants qui sont illégaux. Donc pour nous, le gouvernement déplace le sujet pour faire croire aux citoyens sud-africains qu'ils les écoutent, qu'ils sont en train de faire en sorte que les migrants ne soient pas en Afrique du Sud, pour les rassurer.
Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, joint à Johannesburg.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour mettre sur pied une opération militaire en Méditerranée appelée EU-NAVFOR-MED dans une tentative d'empêcher les migrants d'atteindre leur côte à bord d'embarcations de fortune surchargées. Michel Joseph.
C'est le mois dernier que la question de l'immigration clandestine de masse est devenue une priorité plus grande encore pour l'Europe quand plus de 700 migrants ont péri dans le pire naufrage qu'on ait vu depuis des décennies en Méditerranée. Suite à cette tragédie, les dirigeants européens se sont entendus sur le principe d'une opération pour capturer et détruire les embarcations des passeurs venant de Libye avant qu'elles ne prennent la mer. Ils ont également triplé le budget de Triton et Poséidon, deux missions européennes de surveillance et sauvetage en Méditerranée. Cette mission sans précédent de l'Union européenne doit entraîner le déploiement de bâtiments de guerre et d'avions de surveillance des armées européennes au large de la Libye, devenue la principale plateforme du trafic. Elle requiert un accord des Nations Unies et ne doit être véritablement lancée qu'en juin. L'opération aura son quartier général à Rome et doit être commandée par l'amiral italien Enrico Credendino. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont déjà promis des navires. Avant d'entrer dans la salle de conférence aujourd'hui, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déclaré qu'elle voulait une opération ciblant les passeurs libyens. Aujourd'hui, le point le plus important, c'est prendre la décision d'établir cette opération, une opération de l'Union européenne pour démanteler les filières criminelles de trafiquants de migrants en Méditerranée. Je m'attends à ce que cette décision soit prise aujourd'hui pour qu'on puisse entamer sa planification et éventuellement son lancement dans les prochaines semaines. Selon les diplomates participant à la réunion de Bruxelles, l'Union européenne veut effectivement recevoir l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies et rédige un projet de résolution pour une approbation fondée sur le chapitre 7 de la Charte de l'ONU qui autorise le recours à la force. Le ministre britannique de la Défense, Michael Farland, a dit que les forces navales de son pays sauvent déjà des vies en Méditerranée, mais ont besoin des pouvoirs requis pour s'en prendre aux gangs et réseaux de trafiquants de migrants. Un millier de migrants, la plupart venant d'Afrique via l'Italie, ont été interceptés ces trois ou quatre derniers jours dans le sud de la France, près de la frontière italienne, signalent les autorités européennes. La mission militaire est unanimement dénoncée par les ONG pour qui elle va seulement déplacer les routes migratoires et augmenter les risques pour les migrants. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, plus de 34 500 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année et quelques 1770 sont morts ou ont disparu en mer, soit plus de la moitié des près de 3 300 morts enregistré en 2014.
Salut les amis, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Salut nos auditeurs à Dakar où il fait 26 degrés centigrades, 23 à Bujumbura où des averses sont prévues demain. Morgane.
Et cette édition touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Michel Joseph. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Merci Monsieur Chang à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
à Bangui sur 101.7 FM, Sabari FM, Bamako, Golf FM, Cotonou, Milo FM 99.5, Cancan Niger, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA.